Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est une consigne du coach, mais c'est une consigne de moi-même. Je sais que la profondeur, c'est un de mes atouts.
Je veux pas dire qu'il nous manque la réussite. Il nous manque la réussite, mais il nous manque pas que la réussite. C'est qu'il nous manque aussi le petit truc en plus de faire encore plus et beaucoup plus.
Mourinho, il vous a dit l'année dernière, mais vous voulez pas l'écouter, tout le monde est monté au créneau. C'est le centre de formation de l'Europe. On est devenu de la Yougoslavie des années 70. Vous voulez pas l'écouter, ben n'écoutez pas.
Mon choix était fait. Même si le Real de Madrid venait à ce moment-là, c'était fini. Mon choix était fini.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, vous avez entendu la Temberpa, Frédéric Antonetti. Bonsoir l'autre, un peu toutes ces déclarations. Bon, enfin, c'est toujours sympa. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Avant de parler de Lens et de l'OM, concluons sur Toulouse avec Paul, au 32-16, supporter du TFC. Salut Paul.
Salut les gars, salut Gilbert, salut Paul. Flo, salut Daniel.
Bon, ça te contrarie là, ces départs que le club semble pas avoir maîtrisé comme il le fallait?
Ben franchement, je m'y attendais. Hein. Ça fait un moment que c'était en pourparlers. Je m'y attendais, mais après, on parle des quatre départs parce que c'est les quatre départs qui ont été officialisés par le club avec Dupé, Deyagüre, Spierings et Vandenboumen. Mais je pense que Fares Chaibi va partir aussi. Enfin, il a changé d'agent pour gérer son été. Je pense qu'il va partir. Ça parle d'un départ de Ratao. Je pense que Anthony Rouault risque de partir aussi. Là, au bout d'un moment, il aura envie d'aller voir.
Ouais, ce joueur sera demandé et il va partir, oui.
Mais c'est la génération Manu Koné, Amine Adli, tout ça. Il voit ses potes qui sont partis voir ailleurs. Je pense qu'il aura envie d'aller voir ailleurs aussi. Et puis, il est bon, hein, donc il sera convoité.
Et Abouklal, là, c'est peut-être le club qui va vouloir le vendre.
Ça parle de Brighton, je crois.
Ah bah, Abouklal, qui, soi-disant, s'était racheté une virginité là, récemment. Là. On m'en a rencontré une belle dans un avion. Là. C'est vraiment quelqu'un qui se comporte très, très bien dans la vie. Vraiment, là on est sur une lumière. Hein.
Il va partir. Et puis l'affaire, enfin, on va pas en parler, mais avec Laurence Arribagé, ça a été étouffé, tout ça, c'est pour qu'il puisse partir serein et que le club puisse.
Absolument. Je suis content que tu dises ça parce qu'on n'a jamais reparlé de cette histoire. Évidemment, non seulement nous soutenons les reporters d'RMC qui connaissent la vérité de cette histoire-là, et évidemment que l'histoire a été étouffée parce qu'en plus, Madame Arribagé. A reçu des messages assez perturbants qui ont fait qu'il valait mieux mettre la poussière sous le tapis. Et effectivement, je ne pense pas que ce joueur soit quelqu'un de très très recommandable. Et on m'a raconté beaucoup d'histoires et vraies, de solides témoignages sur notamment un vol Rabat à Toulouse. C'est quelqu'un, oui, Toulouse peut se séparer de ce mec-là, oui. Oui, oui.
Et après, vous parliez d'affect et tout, etc. et tout. Moi, je m'étais vachement attaché à Vandenboumen en tant que supporter. Enfin, je suis abonné depuis des années au Stadium. Je m'étais vachement attaché à Vandenboumen, Deyagüre, tous ces joueurs. Daniel parle souvent des joueurs du PSG qui viennent jamais saluer leurs supporters à juste titre. Bah, à Toulouse, c'est cette équipe, il y avait un vrai relationnel qui s'était créé avec les supporters. Ils venaient toujours nous saluer. Moi, je suis abonné en virage. Ils venaient toujours saluer le virage à la fin du match. C'est l'époque aussi. Avec les arrivées de Deyagüre. Et Deyagüre, d'ailleurs, l'a dit, ils ont fait une petite cérémonie. J'étais au match contre Auxerre ce week-end. Il disait, je suis arrivé, il y avait 3000 personnes dans le stade. Aujourd'hui, le TFC, c'est 25 000 en moyenne au stadium, sur un stade qui a 33 000 de capacité. Donc, en fait, toute l'affluence, tout ce mouvement qui a existé autour des supporters, ça s'est fait avec ces joueurs-là. Donc, en soi, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu d'affect qui soit développé avec ces joueurs-là. Et pour moi, il y a eu l'époque Batles, Elmander, etc. au TFC, l'équipe qui avait fait un tour préliminaire de Ligue des Champions contre Liverpool. Et pour moi, il y aurait eu l'époque des Deyagüre, Vandenboumen, ouais.
Spierings. Il y en a eu d'autres des époques. Il y a eu l'époque Marsico. Il y a eu l'époque.
Ouais, il était pas né, là.
Non, mais après, bon. Moi, je n'étais pas né. Ouais.
Marsico, oui, je sais bien, mais je veux dire, voilà.
Oui, non, mais voilà. Enfin, Vandenboumen, bien sûr qu'on aurait aimé qu'il reste. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Honnêtement, je préfère un club avec la data maintenant où on a du jeu que la fin de l'époque Sadran où on entendait les mouches voler au stadium.
Après, oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais on va retomber dans quelque chose qui fait notre football maintenant. C'est que Toulouse va aller directement en Coupe d'Europe et que probablement. Je sais pas.
Il va pas y faire grand chose, tu veux dire.
J'ai du mal à imaginer qu'ils sortent même de la poule, quoi, en fait. Et puis parce qu'en fait, ça sera même pas leur priorité, parce que le fonctionnement du club avec data comme ça, c'est de rester en Ligue 1, d'essayer de valoriser des joueurs. Et la Coupe d'Europe, je pense même qu'elle sera même pas prioritaire, quoi. C'est ça qui est terrible. Ils vont être en plus Toulouse, ils vont être chapeau 4 de l'Europa League.
Oui.
Donc,
Europa League, il y a toujours des, il y a toujours
de... Ça sortira même pas de la poule. Ça peut, ça sort, ça va même pas sortir de la poule. Mmh. Voilà.
Faudra le gérer.
Ça
aussi,
va pas nous aider.
L'Europa League. Ouais, toi, on a tous les joueurs qui s'en vont. Enfin, la 85% des titulaires. Moi, j'ai envie de faire confiance à Komoli et la direction aussi, parce qu'ils ont su, bon, après, c'est pas la même chose et tout, mais ils ont su reconstruire une équipe l'année dernière. Il y a eu des départs majeurs aussi, même si ce sera pas la même chose cette année, évidemment. J'ai envie de leur faire confiance et Komoli avait dit dans la presse locale qu'il avait préparé tout ça et qui préparait une équipe compétitive en Europa League, même si j'ai du mal à le croire avec tous les départs qu'il y a. Et moi, je veux surtout qu'on finisse pas comme Nantes cette année, c'est-à-dire à jouer en semaine, avoir qu'une équipe, à pas savoir gérer ça, au final, à se retrouver dans la merde à la fin de la saison, quoi. Enfin, voilà. C'est ce que j'espère, que tout va pas s'écrouler.
Tu peux retrouver Liverpool en Europa League, hein.
Et ce serait une belle histoire avec l'histoire du tour préliminaire en 2007.
Tu pourrais avoir un groupe genre Liverpool, Ajax, un autre et Toulouse par exemple. Ça, c'est il peut y avoir des groupes assez.
L'idéal, ce serait d'avoir Liverpool pour faire refaire l'histoire du tour préliminaire et l'Ajax pour retrouver Van den Boomen au stadium comme ça. Si t'en vas à l'Ajax.
Ça, il s'est fait, c'est officialisé. Hein,
c'est officiel, ouais. C'est officiel.
Salut Paul, merci pour ce témoignage. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Alors, on en arrive donc à Franck Haise, qui donc laisse planer un doute sur le fait qu'il reste ou qu'il ne reste pas. Comme l'a dit Flo, effectivement, Mbappé, c'était plus clair. Et donc là, c'est ton bémol lensois, Daniel.
En fait, je ne sais pas si je m'y attendais ou pas, en tout cas. Peut-être que ça coulait de source qu'il n'y ait pas ce bémol et qu'il n'y ait pas ce questionnement comme je l'ai là depuis quelques jours. Et effectivement, mon doute s'est amplifié après les dernières déclarations de Franck Haise, parce que moi, ce qui coulait de source, c'était que la belle histoire continue. Haise n'est pas au club depuis 10 ans non plus. Hein. Il a remplacé Montagnier en cours de route quand ça allait pas du tout en Ligue 2. Il a fait remonter le club. Ils ont fait une belle année où ils sont un peu rentrés dans le cœur de tout le monde par un jeu attractif et par la révélation de joueurs de talent. Ils viennent dans la foulée, ils enchaînent avec une année, celle qui vient de se terminer, où ils sont fantastiques, ils plaisent à tout le monde. Ils font deuxième. Tu vas en Ligue des Champions, tu fais champagne, la fête, le stade. C'était limite, c'était concert géant samedi soir. Dans la foulée, va en Ligue des Champions, non ? Garde le maximum de joueurs, renforce l'équipe, poursuit l'aventure, va au bout, va en Ligue des Champions. T'es en train de te demander si tu vas changer de club. Alors je sais pas, peut-être il va rester, mais le fait même que ce doute, que le doute soit là, s'installe et que lui-même se pose la question, très franchement, ça me déçoit profondément. Ça me déçoit beaucoup. Moi, j'ai envie qu'il reste à Lens et je veux que le maximum de joueurs restent et que l'aventure se poursuive en Ligue des Champions. Parce que sinon, ça veut dire quoi? On en revient toujours à notre gros défaut qu'on a en France. C'est que les mecs font les grosses saisons. C'est génial, c'est la fête. Tu termines meilleur entraîneur UNFP. Tout le monde est content. Les supporters sont ravis. Et puis après, normalement, la récompense, c'est d'aller en Coupe d'Europe. Et la récompense, tu la prends et tu la jettes dans le caniveau. Voilà, on va tout reconstruire. Donc, comme si c'était un marchepied. Donc finalement, Lens, c'est super. Évidemment, il restera dans les mémoires. Le mec, t'as remonté le club en Ligue 2, tu vas terminer deuxième 2 ans plus tard. C'est génial. Mais t'en vas pas au moment où il y a la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ta récompense. Et ouais. C'est pas la petite Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Champions. Tu vas ramener la Ligue des Champions à Bollard. Reste là, joue, déclare tout de suite que tu veux t'investir à 100%.
Il peut y avoir d'un intérêt, je sais pas, peut-être qu'il veut renégocier son contrat, son salaire.
Ouais, mais le fais pas comme ça, va pas ternir un petit peu ce qui est en train de se passer. Moi, je sais pas, je trouve que là, ça a mis un voile qui me plaît pas. Oh, Francky, reste, quoi. Mais là, la Ligue des Champions, déclare tout de suite que tu veux, que tu veux continuer à kiffer avec cette équipe.
Vas-y, Francky.
Non, moi, bon. Là, vraiment, j'aime pas cette ambiance, là.
En fait, il y a un truc qui est en train de se passer, on en a parlé un peu hier. C'est toujours dans l'individualisation des comportements, tu vois, et y compris du côté des entraîneurs. Je pense aussi encouragé par leurs entourages. Ce que tu as dit, Gilbert, à l'instant, disant il va peut-être renégocier. Oui, je pense que ça fait partie du truc, en fait, de sa déclat. Parce que je pense qu'autour de lui, il y a des gens qui disent t'engages pas tout de suite en disant c'est bon, je reste, bien sûr, j'adore ici, j'aime tout le monde, c'est parfait. tout le monde est un peu dans une posture, enfin beaucoup de gens, parce que pas tout le monde, beaucoup de gens sont dans une posture de négo. Et j'ai pas envie de jeter la pierre forcément à Francaise, parce que aujourd'hui c'est le système qui veut ça. C'est-à-dire que son agent, entre guillemets, a pu lui dire « Attends, si tu dois faire une décla, te jette pas direct en disant « Oui, bien sûr, c'est bon, on va discuter avec les dirigeants, mais il n'y a pas de raison. Laisse entendre que tu as des sollicitations, tu as des machins. » Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas reconnu vraiment le Francaise qu'on voyait d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de com, et il y a beaucoup de choses qui se passent avant dans ce genre d'événement, et qu'il y a beaucoup de comportements qui sont, que ce soit du côté des joueurs, et ça, on l'a déjà souvent dit, qui se foutent un peu de savoir s'ils vont rester 6 mois, un an et demi, de l'avenir d'un club dans lequel ils passent. Ça, c'est bon, voilà, c'est acté depuis déjà quelques années pour la plupart aussi des joueurs. Ben maintenant, du côté des entraîneurs, c'est peut-être un peu nouveau, mais tu t'aperçois que leur communication est importante. Pour avoir suivi l'année à Rennes et les conférences de Genesio, ben même quand ça allait moins bien, Genesio, en prenant la parole, d'ailleurs plus que les autres, avec l'intelligence d'ailleurs de le faire et de se servir en gros du magistère de la parole, eh ben s'est servi un peu lui-même. C'est-à-dire qu'il a réussi à atténuer un petit peu ses erreurs, à dire que quand même l'effectif, les entre guillemets les dirigeants, le directeur sportif, même si c'est il est proche de lui, tu vois, c'est une façon aussi toujours dans la communication de dire c'est pas vraiment que de ma faute. Et puis c'est vrai qu'il a des soucis, il a entretenu le doute parce qu'on pouvait dire qu'il pouvait aller ailleurs, il pouvait tout ça a joué. Puis finalement il a à la fin, sans doute après avoir négocié effectivement ou avoir à discuter avec ses dirigeants, il a annoncé qu'il allait rester. Mais je pense que cette posture-là, elle n'existait pas forcément avant. C'était pas une idée première dans l'esprit des entraîneurs qui, après une bonne saison, avaient dans l'idée de continuer. C'était une logique. Maintenant, on est aussi dans cette logique à la fois marketing et de négociation qui fait que même un Francaise, qui en com a été globalement parfait toute la saison d'ailleurs, je pense que là, il était dans une posture effectivement de négo et dans une posture de communication.
Teddy est là, supporter lensois. Salut Teddy.
Salut Teddy.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Teddy, on me dit que tu vis au Mexique?
Oui, je vis au Mexique, oui. Mais je suis porteur de Lens depuis toujours.
T'es un ch'ti au Mexique, quoi.
Un ch'ti au Mexique, oui.
C'est Teddy Gonzalez. Est-ce que tu vis dans le nord du Mexique, du coup?
Non, on va dire plus dans le centre. Je suis pas du côté de Gignac. Je suis plus dans le centre, à 3 heures de la capitale, à Querétaro.
Ah, mais c'est là qu'a joué Ronaldinho.
Exactement. Enfin, joué. Où il est venu danser, quoi.
Ouais, en qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais au Mexique?
Je travaille, j'étais parti pour un long voyage.
Ils construisent un mur entre le Mexique et les États-Unis.
Au final,
t'étais parti pour quoi faire?
J'étais parti juste pour dans l'idée de voyager. Au final, je me suis installé ici.
Oh, ça sent.
Ça sent l'amour.
Ça sent la meuf, ça.
Ça sent l'amour.
Ah, bah après, ça fait partie des motivations.
Ah, ouais. Bon, et t'arrives à suivre à distance ton club, là? Tu vois les matchs?
Ah, bien sûr, j'ai toujours suivi dans tous les pays que j'ai fait, j'ai toujours regardé en streaming, sur Internet, je suis ça de près.
Bon alors, et Francaise, là, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça te contrarie?
Ah, bah oui, ça contrarie, hein, forcément. Après une superbe soirée samedi, où avec les larmes de bonheur, le lendemain, ça tremble un peu en entendant le disco. Je suis assez mitigé sur ce qu'il a dit. J'ai envie de me dire que c'est un coup de pression. Alors, je suis d'accord avec Daniel, si c'est un coup de pression, c'est dommage de le faire là, comme ça. Autant que ça reste en interne, je suis tout à fait d'accord avec Daniel, parce que ça fait peur en fait. C'est dommage, ça fait redescendre les émotions en fait le lendemain, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qu'on veut pas perdre, même avant les joueurs, je pense que c'est le coach. Donc ouais, ça refroidit un peu, mais j'y crois pas au départ. Même si je me suis fait plusieurs réflexions, je suis allé dans plusieurs théories où je me suis même peut-être dit, il a peut-être parti, il a peut-être envie de partir la tête haute.
Alors attends, je te fais un scénario. Imagine-toi que tout à coup, Radcliffe se réveille, qui s'intéresse de nouveau à Nice et qui dit, tiens, moi, j'aime bien, on va aller, on lui offre un beau paquet de pognon là, et on le fait venir, une offre qu'il peut pas refuser, tu vois. Il voit le truc, il dit c'est le contrat de ma vie, j'y vais. Tu te sentirais trahi?
Ah, totalement. Non, j'y crois pas une seconde pour aller jouer le milieu de tableau avec Nice, j'y crois pas, non. Avec tout le respect que j'ai pour les.
S'il va à Nice, je veux bien qu'on va lui vendre un gros projet parce qu'il connaît très bien le directeur sportif, mais c'est un pas en arrière. Honnêtement, moi je le comprendrais pas. Je suis lensois, je lui en veux.
Mais en fait, il est dans la posture de Galtier après Lille. C'est-à-dire que s'il signe à Nice. Même s'il y a le projet derrière, tu peux toujours penser, qu'est-ce qu'on croyait Galtier aussi à l'époque, est-ce qu'on croyait tous d'ailleurs, qu'il y avait un vrai projet, enfin, qui allait marcher plus fort. Mais voilà, c'était un peu la même chose. Et finalement, ouais, Galtier, dès qu'il a vu que ça n'allait pas, il est parti aussi. Bon. Non, mais la seule chose qu'on pourrait comprendre, pour être très clair, c'est évidemment que s'il avait un très très gros projet avec un très gros club, pourquoi pas, n'importe qui aurait le droit de réfléchir, tu vois. C'est, voilà, mais ça représente une très peu de cas, très peu de possibilités, un faible pourcentage. Donc après, pour le reste, encore une fois, je pense que c'était de la com, que c'était prévu, et je pense effectivement c'est quand même un peu délicat d'avoir fait ça à ce moment-là.
Teddy, merci beaucoup.
Ben, je te remercie, je vous remercie à vous.
Et puis à très bientôt.
Continuez comme ça, c'est super de vous écouter d'ici avec les podcasts.
Ça marche. Bah écoute, à très bientôt, direct du Mexique, pour parler du Racing Club de Reims. On nous pose souvent la question de la possibilité d'appeler le 32-16 depuis l'étranger. En fait, Teddy a fait un truc très bête. Il a envoyé un message sur Direct Studio. Max, toujours branché, a vu le message de Teddy, il l'a appelé, et puis bah voilà quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc si vous êtes
c'est Max partout
dans le monde, que vous
Max
écoutez l'after
avec son téléphone perso en plus, donc il a vendu son appart,
il vous bip après il faut le rappeler
il est obligé de vendre son appart là, si tu peux le rappeler.
Allez, dans quelques instants, l'OM Tudor doit-il absolument rester, on en débat dans l'after dans quelques instants.
RMC 22h minuit, l'after foot,
Gilbert Brisbois.
Il est 23h19, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là également. Parlons de l'OM, parce que vous le savez, c'était hier sur le site rncsport.fr. Tudor semble de plus en plus se rapprocher d'un départ plutôt que d'un maintien. Alors effectivement, quand on a appris ça, on était plutôt étonné. Mais au final, parfois c'est la vie des clubs. Et puis peut-être que lui, il a pas envie. Peut-être que Longoria non plus. Là pour l'instant, tout ça n'est pas très clair. On sait que dans les jours qui viennent, ça va sans doute se préciser. Peut-être même avant le dernier match de ce week-end pour l'OM. Bon, à Marseille tout de même, on semble déçu de la troisième place, notamment de là des derniers matchs suite ce week-end. A peut-être aussi joué. Bon, la question qu'on peut se poser là, un peu plus à froid, c'est bon, au fond, est-ce qu'il faut absolument, quand tu es un club comme Marseille, retenir un coach? Est-ce qu'il faut passer intelligemment à la suite? Enfin, quel est votre avis, les gars? Et ensuite, on en discutera avec au 32-16 avec les supporters marseillais.
Alors, déjà, moi, je suis pas sûr que la tendance soit comme celle que tu as décrite. Je pense que c'est pas décidé. Je pense que ça va se faire en termes d'une discussion qu'on aura. Longoria avec lui. Mm-hmm. Je pense que ça va aller très vite. Comme tu l'as dit, on va le savoir entre demain et dans 2-3 jours. Je pense que le président est plutôt pour continuer et que l'entraîneur ne sait pas trop. C'est peut-être lui qui décidera qu'un an ça suffit et que peut-être il a envie de retourner en Italie. Ça c'est possible. Donc la décision va lui appartenir à lui, je pense. Pour ce qui est du remplacement, moi je dis pourquoi pas. Je trouve que c'est bien quand il y a de la continuité dans un club. Mais après, regarde de Sampaoli à Tudor, et on était beaucoup à penser que ça aurait été peut-être une bonne idée que Sampaoli continue. Et d'ailleurs, c'était le projet qu'il continue. Et il est parti. Bon, finalement, ils ont quand même réussi à aligner podium. Mais d'ailleurs, je rappelle quand même que sur les 10 dernières années, l'OM a fait podium 4 fois, dont cette année. Donc 3 fois en dehors de cette année et une fois quand la saison a été coupée Covid là. Donc on ne sait pas comment ça se sera terminé. Donc là pour le coup par rapport à ce que disait Galtier sur la normalité du titre de champion, c'est pas du tout une normalité pour l'OM sur les 10 dernières années d'être sur le podium. Donc c'est plutôt un moment là dans l'histoire de l'OM qui est plutôt pas mal. Deuxième puis troisième, c'est plutôt un bon moment. Donc il faut rester dans cette dynamique. Éviter les déceptions comme celle de cette année, que ce soit en Coupe d'Europe et Coupe de France, mais surtout rester dans le haut, parce qu'on se dit toujours que la concurrence, elle va revenir. Tu vois, Lyon, ils vont pas rester dans les choux tout le temps. Monaco, bon, avec Lyon, on sait jamais. Mais tu vois, Lens, un invité peut-être surprise cette année. Rennes, on sait pas trop comment ils vont progresser. Enfin, on s'aperçoit que chaque année, t'as quand même un peu une équipe surprise en Ligue 1. Et que finalement, c'est pas complètement acquis d'être sur le podium, même si le podium te semble promis. L'objectif pour l'OM, c'était podium. Ils y sont. Il y a des déceptions à gommer cette année. Est-ce que ça va se faire avec le même entraîneur? En tout cas, moi, s'ils changent, je ne crois pas qu'ils auront des difficultés à trouver un bon entraîneur. Hein. L'autre jour, j'ai cité Fonseca à Lille. Si jamais il devait être sur le marché ou si il avait envie de partir, bah, ça serait une bonne recrue. Il peut y en avoir d'autres, hein, des entraîneurs pour l'OM. si Tudor est fatigué, si Tudor voit que son groupe peut pas être réceptif deux ans de suite à sa méthode, je prendrais pas ça comme un drame total si ça devait se terminer, quoi.
Flo,
moi je suis pas vraiment d'accord. Je pense vraiment que ça, c'est si moi je souhaiterais qu'il reste pour la continuité.
Ah mais moi je veux bien, moi je te dis que je ne pas. Non, mon idée est peut-être pas aussi arrêtée que la tienne. Mais s'il reste, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, ça on est d'accord, mais je suis moins d'accord avec le fait que ce serait pas un souci si on changeait
de nouveau.
Non, bien sûr, mais bien sûr que t'as des bons coachs et tu peux faire 10 ans de suite avec 10 coachs différents. Il y a plein d'idées, mais c'est pas l'histoire d'un club qui se construit. Et ce qu'on souhaite, te parler du projet qu'il y avait déjà avec Sampaoli. Là, on pensait quand même que Tudor, ça allait être potentiellement
dans des styles différents. Ils ont eu des coachs plutôt pas mal, Villas-Boas, on pouvait ne pas aimer le style, mais c'était quand même un vrai coach. Ils ont enchaîné avec Sampaoli, qui est un autre vrai coach à caractère, qui dégage un truc. Et Tudor, encore un vrai coach.
Mais c'est pas ça, la question.
Voilà.
La question pour moi, c'est quand même que quand tu as un gros club français, tu vois, la différence finalement, tiens, on parlait de Toulouse ou de clubs comme ça qui ont peu de chances d'aller gagner un titre, et notamment en Ligue 1. Bah là, tu peux aller sur qualité de jeu, peut-être même un système nouveau comme la data. Tu peux effectivement peut-être changer de coach en te disant on va reconstruire une équipe parce que de toute façon, nous, l'objectif, c'est d'être de nous maintenir et d'offrir un beau spectacle et éventuellement de prendre une coupe, un truc comme ça. C'est pas pareil quand t'es l'OM, Lyon, Monaco ou le PSG. Là, tu dois te dire qu'est-ce qu'on construit, comment on le fait. Et sur au moins du moyen terme. Je veux bien qu'il n'y ait plus de long terme en football. Et là, en faisant ça, tu acceptes que tu es ce genre d'équipe où tu rebats les cartes tous les ans. C'est en ce sens. J'ai eu des débats un peu en fiévré depuis hier soir avec les supporters de l'OM sur Twitter. C'est pas du tout que je m'en prends à Longoria. Moi, j'adore ce que fait Longoria et son discours. Mais comme il nous a vendu, comme l'a dit Daniel déjà, un projet, c'est une forme, un style de jeu. Déjà entre Sampaoli et Tudor, c'est pas le même style de jeu. Alors ça marche en termes de résultats sur le palmarès, podium, très bien. Mais moi, je pense qu'il faudrait plus de continuité pour que cet OM-là, grosse ville et gros club français, concurrence le Paris Saint-Germain pour le titre, s'installe durablement en Coupe d'Europe et puisse jouer vraiment et sortir des poules en Ligue des Champions. Je pense qu'il faut de la continuité. Donc moi, très simplement, et même si j'ai pu émettre des bémols, et qui contribuent d'ailleurs au départ de Tudor, des bémols que plus personne ne voulait entendre, parce qu'il faut à tout prix juste dire, avoir un discours. Je suis un peu sidéré par les débats que j'ai pu avoir. On ne peut pas avoir de réflexion complexe. Tu vois, j'aime beaucoup l'OM de cette année, j'aime beaucoup Longoria et son discours de début de saison quand il a recadré tout, je l'ai dit mille fois. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Tudor. Mais alors quand tu dis, au trois quarts de la saison, il me semble que Tudor quand même fait quelques mauvais choix qui ont quand même été validés par des résultats, notamment récemment moins bons. Les mecs hurlent en disant, mais toi t'as jamais aimé Tudor, t'es un anti-OM. Les mecs, calmez-vous, réfléchissez, écoutez, putain, c'est insupportable. Donc je dis juste que au contraire, Tudor, avec un management peut-être un peu différent, avec l'aide de son président qui l'aiderait justement à avoir un peu mieux son vestiaire, avec une meilleure utilisation de son banc, peut-être aussi avec un recrutement plus adéquat et un peu plus de chance parce qu'il a eu des blessés qui ont été malvenus, je pense à Unai. Eh ben, moi j'aurais souhaité, je préférerais pour l'OM, pour la stabilité, pour le fameux projet, que Tudor reste. Je pense que ce serait vraiment, alors un coup d'arrêt, j'espère que non, mais c'est compliqué de reconstruire et de repartir. Je trouve remarquable justement ce qu'a fait Tudor, étant donné le projet de jeu qu'il y avait avec Sampaoli, l'urgence dans laquelle il est arrivé. Absolument. Et la pression à laquelle il a résisté au mois d'août.
Tu as bien insisté sur l'urgence quand il arrive.
J'ai vécu ça, on faisait les afters à ce moment-là. Mm-hmm. On ne donnait pas à chair de sa peau. Il pouvait se faire dégager au bout de deux matchs.
On oublie vite, on ne remet pas dans le contexte.
Moi, je souhaite, ça va à l'encontre de ce que les gens ont cru que j'ai pu dire sur Tudor. Je souhaite qu'il reste, je souhaite de la stabilité. Ça n'empêche que je pense quand même qu'il a fait quelques erreurs. Je pense que c'est un coach qui est ultra rigide, y compris dans le fait, par exemple, qu'il n'ait pas prononcé, j'ai entendu ça, je ne sais plus dans quelle émission sur RMC aujourd'hui, je trouvais ça tout à fait juste. Tu vois, il n'a pas dit une fois non plus, dans son côté très froid, c'est vrai qu'ici c'est exceptionnel et c'est vrai que j'ai envie de
c'est vrai, c'est vrai.
Mars, il a eu une
en avril. Si, il a dit ça.
Alors, il a pas dit comme ça. Il a dit que c'était la première fois qu'il se sentait aussi en phase avec un club.
Mais est-ce qu'il a parlé de l'avenir?
Ouais, tu parlais de Longoria en creux, quoi. Oui, en disant qu'il se sentait bien, qu'il était
sûr. Mais il a parlé de l'avenir. Est-ce qu'il a dit t'as envie, tu parles du PSG. T'as envie que les joueurs disent, comme Messi, c'était évidemment pas le cas. écoutez, c'est pas le club de ma vie, mais c'est un club exceptionnel dans lequel je compte m'inscrire pendant trois temps dernières années. T'as envie d'un discours. Tu l'entends, ça, parfois. D'ailleurs, des discours qu'on a entendus avec Fofana quand il est resté à Lens, etc. C'est un bon sujet qu'on a traité avec les traîtres, avec ceux qui veulent rester dans la revue de l'After. Eh ben, là, Tudor, il a été très bien dans plein de domaines, très franc, mais à aucun moment il a dit, par exemple, bah écoutez, je l'ai jamais dit ou rarement dit dans ma carrière, peut-être à Duke Spit, mais ici je serais capable de rester 5 ans, c'est exceptionnel, comme Gerrits a eu des discours incroyables sur l'OM, en fait, comme les autres ont eu des discours.
Quelque part, si tu me permets de, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est, on n'est pas obligé d'être rigide pour être bon, pour imposer une discipline et de la rigueur dans un club. Et tout simplement, si la boutique du coin, il pouvait trouver un sourire, et le mettre avec, sur son visage avec un petit peu d'affect, un peu de passion, parce que ce club a besoin de ça, et naturellement c'est dans son ADN. T'as cité Gerrits, je pense que c'est un peu l'exemple.
Même
sans Paoli, qui avait un caractère comme ça qui collait à l'OM. Tudor, je pense qu'il devrait se détendre un petit peu et mettre un sourire à l'OM, sans pour autant se renier sur l'exigence qu'il a chaque jour. Tudor, c'est un Juventino. La Juve, c'est pas un club qui rigole. Traditionnellement, c'est pas un club qui rigole. C'est un club sérieux et rigoureux. C'est la ville du Nord en Italie. Ça rigole moins qu'à Milan, même. C'est une ville un peu froide. Évidemment que là-bas, il y serait très bien, que ça doit être le rêve de sa vie, d'ailleurs. Mais Turin, c'est pas Marseille. Ça, c'est clair et net, culturellement. Alors, peut-être qu'il a le droit de s'adapter un tout petit peu quand même à la personnalité, à la culture de la ville, pour se faire complètement aimer, au-delà des résultats et de ce qu'il a proposé cette année, où quand même, on va dire, à 80%, 80% du temps, les supporters se sont quand même retrouvés dans cette OM cette année, au-delà des déceptions, parce qu'il y en a eu aussi quand même. Voilà, donc s'il pouvait juste, après, faut pas que ce soit fake son adaptation,
non, bien sûr. Mais,
parce que
mais là,
sinon ça se verra. Mais juste réfléchir un petit peu lui-même, savoir s'il a vraiment envie de rester, s'il a envie d'échanger dans l'affect avec ce club, parce que ça compte là-bas. Eh bien, écoute, oui, si un jour il va à la Juve, là-bas il y aura pas besoin d'affect. Il fera son taf, il viendra le matin, il sera rigoureux, il fera son taf, il repartira le soir et personne n'en demandera plus.
Et sur
dernier mot,
un dernier mot sur l'idée de projet. Moi, ce que j'ai aimé quand Tudor est arrivé, et ce que je trouvais remarquable et difficile à faire, il l'a fait notamment avec la gestion de Payet, je parle de la gestion de début de saison, en montrant Vestiaire, en gros, qui était le patron, et en montrant aussi ce qu'il fallait faire à l'entraînement, sur le terrain, en termes de travail. Cette culture du travail, par exemple, c'est génial. Alors, j'ose espérer qu'ils vont avoir la même idée avec le coach suivant si Tudor partait. Mais ça, par exemple, ça faisait partie d'un truc un peu, on va dire, nouveau. D'une obligation, d'une culture différente, d'un truc qu'on n'a pas toujours vu tout le temps en France. Donc, c'est en ce sens que je regrette le manque de continuité. Parce que ça, bah, tout en mettant un peu d'eau dans son vin ou en adaptant l'effectif à ça, à tout ça, avec les joueurs qui l'ont peut-être un peu lâché, enfin, avec qui c'est peut-être un peu fâché. Eh ben, si tu gardes ça, tu gardes forcément des points d'avance pour la saison suivante. Donc, je pense vraiment que si l'info et les infos de Flo Germain là se confirment, c'est-à-dire un départ de Tudor, je pense vraiment que ce serait un coup dur et je pense une
comment alors, dire. Le studio est assez partagé. Hein. On va d'ailleurs accueillir Romain dans quelques instants et ensuite d'ici midi on parlera de la course au maintien dans l'After. On se retrouve tout de suite et puis tu as parlé de la revue de l'After. Florent, je précise que demain on fera notre gros dossier sur les traîtres dans le foot. On va s'amuser demain. On a une liste hein, longue comme le bras et vous dans votre club forcément vous en avez un ou deux des traîtres. Le gars qui est parti chez l'ennemi, qui vous a abandonné en race campagne. On jouera tous à ça demain soir dans l'After. Et puis concernant la revue, vous allez sur afterfoot.media. Il y a toujours l'offre Fête des Pères qui est disponible. Abonnement à moins 40%, profitez-en. Et puis demain, magnifique l'édito de Thibaut Leplat, comme toutes les semaines. Il est chaud là le père Leplat. Il nous a fait un édito sur Bernard Tapie. Bienvenue dans le monde fascinant de la post-vérité, nous dit Thibaut, tout ça suite aux célébrations des 30 ans de la finale la semaine dernière entre l'OM et Milan. Ce sera en ligne demain matin sur afterfoot.media. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h33, ils sont là, Daniel Riello et Florent Gautreau. Et pour conclure le dossier Tudor, on va accueillir Romain. Juste avant, quand même, constatons Alors Tudor est pour l'instant toujours entraîneur de l'OM, mais enfin, tu ne trouvais pas quand même que la durée de vie des coachs est de plus en plus courte au fur et à mesure des saisons?
Oui.
Regardez Galtier, un an à Lille,
donnée du football, un an à Nice, adaptation,
un an à Paris, ça valse dans tous les sens.
Il y a un truc plus fort. Non seulement la durée de vie des coachs s'est réduite, mais elle se réduisait dans le cas d'échecs. Maintenant,
même en cas de réussite
ou de victoire ou de titre, les coachs arrêtent soit d'eux-mêmes, Spalletti à Naples, année sabbatique. Il y a une pression, une fatigue telle que même positivement,
pour Tudor, ça pourrait être l'un des motifs de sa mise en retrait volontaire de sa part, c'est l'usure. La pression de cette année. Non, parce que tu m'y as fait penser en parlant de Spalletti.
Oui, alors l'usure, il y a l'usure et il y a effectivement le fait de ne pas pouvoir faire mieux. Il y a des coachs qu'on l'a. Mais même, je reprends même en France, Julien Stéphan, tu sais, qui a dit qu'il avait regretté son départ. Mais il est parti très vite.
Mais Genesio, cette année, à un moment, il a eu le ras-le-bol. C'est pour ça, quand il disait que faut pas croire qu'on racontait de conneries, à un moment, cette année, il a réellement dit. Ouais, je pense que je peux en avoir marre, que je peux partir à la fin de l'année. Il y a eu dans la saison, à un moment, il a eu un ras-le-bol. Il y a de plus en plus de trucs à gérer. Le métier d'entraîneur est de plus en plus dur, mentalement. Tu parles de
même Genesio, d'ailleurs, c'est un bon exemple, parce que même ses résultats cette année, quel qu'il soit 4, 5, 6, tu peux pas dire Genesio dehors, il est 15e, ils ont fait un truc
cadavre. Non, bien sûr que
mais
non.
De même, de lui-même ou pas, ou de l'extérieur, t'as une pression d'elle. Et effectivement, après un titre, donc Galtier, tu pars, Spalletti, bon, il a le titre, il part, tu dors troisième avec l'OM, peut-être, départ, c'est pas
Tuchel,
le
on sait même pas, en Allemagne, ils ont viré tout le monde après un titre. Pourtant, après un titre obtenu quand même, au terme d'un scénario complètement fou, qui met tout le monde en joie, ça peut empêcher 2 heures après, allez hop, on envoie valser tout le staff, hein.
Et allez, on va finir sur Tudor avec Romain, supporter marseillais. Salut Romain.
Salut Romain. Oui, bonsoir à vous trois.
Salut Romain.
Bon, alors toi, tu dis quoi, toi? Ce serait un drame qu'il parte ou pas tant que ça?
Non. Bah après, je suis pas un grand fan de cet entraîneur. Et puis même déjà un petit aparté, mais on était très, enfin les médias étaient quand même très enfin, méchants, on va dire, dans ce sens-là, avec Sampaoli et Bielsa parce qu'ils parlaient pas un mot français. Lui, il a jamais parlé un mot français, mais ça a jamais gêné personne, par contre.
Oui, c'est un peu du détail, ça. Moi, j'ai pas l'impression que les médias aient été méchants avec Bielsa et Sampaoli, globalement.
Ah si, mais tu rigoles ou quoi?
Ils ont démonté.
Bielsa et Sampaoli se sont fait découper en pièces.
Ah bon?
Bah bien sûr, on déteste ce genre d'entraîneur en France. De toute façon, globalement, on déteste ces entraîneurs étrangers. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est dans l'after. Mais de toute façon, généralement, l'entraîneur étranger, il prend cher auprès de nos consultants, qui d'office ont toujours. D'ailleurs, si tu regardes chez la plupart de nos consultants, toujours beaucoup plus sévères sur les entraîneurs étrangers. Ça, c'est une constance, je n'en démordrai jamais. C'est un fait. Mais Sampaoli Bielsa, il a raison, Thomas. Ouais, attends, ils se sont fait démonter.
Moi, je sais pas, ouais. Blanc, il prend bien dans la tronche.
Blanc, tu rigoles, tu trouves qu'il y a toujours des circonstances atténuantes sur Blanc. Tu rigoles.
Même Galtier, il y en a toujours.
Oui, Galtier, il y a toujours. Mais... Blanc, on te ressort tout le temps. On te ressort tout le temps les mêmes balivernes sur quand il était au PSG, ça jouait bien le PSG. Mais n'importe quoi. Bon, vraiment. Vas-y.
Je consomme pas toutes les émissions. Alors, comparons RMC.
T'inquiète pas, je consomme. Même sur notre antenne. Jérôme Tudor, il le découpe en pièces.
Oui, mais il découpe aussi Blanc et Galtier, par exemple.
Galtier, il a fallu du temps. Il a fortement fallu qu'il arrive au bout du bout, quand même. Hein.
Bon, bref. Alors, revenons à Tudor, Romain.
Oui, non, moi, Tudor, je le découpe un peu en règle générale aussi, mais je suis pas fan de ses systèmes de jeu et de ces compositions d'équipe où tu commences le match où tu as quand même 8 à 9 joueurs à vocation défensive à la base. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils partent, parce que c'est un petit peu comme Sampaoli l'année dernière, on est tous devant les matchs, on a tous la solution pour trouver nous derrière la télé, et le mec ne change jamais. Le mec est incapable de se remettre en question, de changer quelque chose dans son équipe.
Est-ce que tu trouves qu'il y a eu assez de joueurs de l'OM dans l'équipe type UNFP?
J'ai pas regardé, honnêtement, ça, je m'en... Voilà.
Non, parce qu'il y avait Rongier au milieu de terrain.
Oui, mais il n'y avait pas Veretout, non?
Il n'y avait pas Veretout, il y avait Rongier.
Il y avait Mbemba.
Il y avait Mbemba en défense, absolument. Cette équipe, elle est folle, hein.
Hakimi
et Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a joué 18 matchs et qui se retrouve là. Rongier mérité, même si j'ai du mal à comprendre, parce que le meilleur milieu de terrain du monde évolue quand même en France et il est pas dans l'équipe type. C'est quand même un peu fou, ça, que Rongier soit devant. Sûrement, j'ai du mal à comprendre. Enfin bon, bref. Mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu folles. Ouais,
il y avait la casette au moins dedans, non?
Il y avait la casette devant, ça me dit rien.
Ah, j'imagine, oui, la casette Mbappé, non?
Parce que la casette Mbappé, logiquement, parce qu'il fait quand même une meilleure saison que notre Alexis Sanchez.
Bon, elle est où l'équipe type? Quelqu'un là sous les yeux?
Non, du coup là, faut qu'on la trouve rapidos. Mais moi, c'est toujours pareil, c'est que cette équipe, comme elle doit être faite en fonction des votes des joueurs, on doit prendre globalement les meilleurs sur chaque poste et sans se poser de questions en fait.
Oui, il y a pas de collectif.
Oui, voilà, on se pose absolument pas. C'est à chaque fois c'est pareil, on se pose jamais la question de savoir si fonctionne.
C'est comme si tu te fais ton 11 de légende. Est-ce qu'il y aura vraiment un collectif si tu réfléchis bien?
Logiquement, c'est comme ça qu'il faut le construire, le 11 de légende.
Ouais, mais si tu mets Cruyff, Maradona, Zidane au milieu de terrain, bon, pas sûr que ça va marcher, quoi. Mais
alors, Brice Samba dans les cages.
Hakimi, Nuno Mendes, Danso,
Mbemba, Mendes, Fofana, Rongier, Thuram, Openda, Messi, Mbappé.
Donc il n'y a pas la casette et ils mettent Messi. Ok, génial. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire?
Voilà.
Au bout d'un moment, ces équipes.
Moi qui ai grandi avec vous, au niveau football, j'avoue que ça me fait mal, mais bon. C'est même pour ça que des fois, je suis un peu déçu par Daniel sur Tudor, que je te trouve beaucoup trop indulgent avec lui, mais.
À quel niveau?
À quel niveau je suis indulgent?
Bah, dans ce qu'il propose, niveau jeu. Alors, je peux comprendre que l'intensité.
Dans ce qu'il propose niveau jeu, écoute, je sais pas si en Ligue 1 cette année, on a deux équipes qu'on fait mieux. Si tu me cites. Cite-moi deux, trois équipes qui ont fait mieux.
Bah, qui ont fait mieux que nous?
En termes de production de jeu sur tous les matchs, hein. C'est pas parce que ça s'est moins bien terminé qu'il faut oublier tout le reste. À part Lens, qui a proposé plus de jeux que l'OM?
Moi je parle de jeu, je parle pas d'intensité, hein. Je parle de football, hein. De jeu.
Bah, de football, pour s'arrêter uniquement à la technique, encore faut-il que t'aies les joueurs techniques, tu les as pas, donc ça va être compliqué.
Bah, tu les fais pas jouer quand ils sont là non plus, donc.
C'est qui les joueurs techniques qu'il y avait à l'OM cette année qui ont pas joué?
Bah, t'as Unai avant qu'il se blesse, il a jamais joué.
Déjà, il était hors de forme quand il est arrivé, et ensuite il a été blessé. Donc c'est compliqué quand même. T'as pas eu l'opportunité de te dire que dès le mois de mars tu pouvais le faire jouer. Il s'est blessé tout de suite, donc c'est pas là, c'est un mauvais procès. Après, qui d'autre n'a pas joué?
Bah, t'as Gay qui est un peu plus technique que deux ou trois qui ont quand même joué.
Bah, honnêtement, je crois pas. Mais enfin, bon, ok, après.
À Marseille, cette année, ouais. Bah, vrai, t'as plus personne.
Bah, donc voilà, donc en fait, ces joueurs-là manquaient, c'est tout, c'est ça qu'il faut dire.
Mais tu les as. T'as Rongier qui a quand même pas les pieds carrés.
Mais Rongier, c'est pas un 10, c'est pas lui qui va poser le jeu.
Là, pour
mais
le coup, il a joué tout le temps.
C'est pas lui qui va poser le jeu.
Un autre système de jeu avec trois milieux de terrain auquel tu demandes autre chose.
Ah, là-dessus, tu dors quand même. Romain, faut reconnaître un truc. C'est que lui-même reconnaît des limites à son système. Hein. Il l'a dit plusieurs fois. Il dit, moi, je sais que c'est assez sclérosé. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Tu vois, mais bon, il semble s'accommoder, en fait, des contraintes que ça suppose, quoi.
Ouais. Oui, mais tes dédoublements sur les côtés avec tes latéraux sont plus faits par tes défenseurs centraux que par des ailiers sur les côtés. Déjà, pour moi, ça, c'est un problème. Tu peux pas demander à un défenseur central d'apporter comme ça, hein, régulièrement, spontanément, pourquoi pas.
Alors moi, l'ai vu pas mal de fois quand l'OM tournait bien, c'était bien. Hein. Je l'ai vu pas mal de fois quand Mbemba était au top de sa forme, qu'il était parfois en position d'ailier. Ça a été un apport assez important. Kolasinac aussi, je vois pas en quoi ça peut poser problème. Dans les matchs où l'OM était en jambes, en forme, on avait une sorte un peu de mouvement assez important où des joueurs dézonnaient beaucoup. Ça a été, enfin, je trouve qu'on oublie quand même que sur les 38 matchs, il y en a eu plus où ça s'est bien passé, où on a vu des choses intéressantes que des choses pas intéressantes, hein.
Entre la Ligue des Champions et surtout Annecy, moi c'est ça qui passe pas, c'est Annecy.
Ah, dans ces cas-là, autant immédiatement on arrive à Annecy où on jouait beaucoup de remplaçants et dire ok, la saison de l'OM se résume à OM Annecy, puis on parle de plus rien. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est Annecy. Alexis Sanchez a raté un penalty ce soir-là qui aurait pu donner une autre tournure au match. Voilà, bon, bah, toute la saison de l'OM doit être jugée à l'aune de ce match-là. Voilà.
Je reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tudor, on a dit tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a dû changer, système de jeu, pression des débuts de la saison, courage entre guillemets de se passer de Payet, et il a démontré qu'il pouvait le faire. Après, quand il a demandé des recrues, qu'il a eu Malinovski, Unai et compagnie, il est vrai que Alors, il était à l'entraînement, on l'a toujours dit, c'était lui qui décide. Hein, pour Mbemba, pareil, quand il l'a moins fait jouer. Mais il avait une tendance à compter toujours sur les mêmes hommes, y compris Nuno Tavares, qu'il a fini par écarter, qui n'était pas le meilleur à l'OM, loin de là. Et donc, effectivement, je reviens à Romain, je ne dis pas en termes de jeu. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai plutôt été séduit par ce qu'a proposé l'OM cette année. Mais dans sa gestion de l'effectif, je l'ai répété hier, y compris par rapport à Lens, dans sa gestion du banc, c'est-à-dire dans l'idée d'essayer d'intégrer tout le monde, je pense qu'effectivement, Tudor a touché certaines limites. Et qu'elles expliquent les quelques points lâchés de ci, de là, y compris dans cette fin de saison où on dit que dans le vestiaire, il y a des joueurs qui, minorité sans doute, ne le supportent pas. Et que ça explique peut-être aussi que lui va
être. Moi, j'ai
pas
vu beaucoup de remplaçants jouer être très décevants quand ils rentrent.
Ouais, mais tu sais, quand tu les fais, vraiment, tu les fais pas jouer et que tu les fais rentrer 15 minutes et que ça se passe pas, si tu veux, à un moment donné, c'est pas. Alors, à un moment,
il faut bien la gagner ta place. Hein. C'est vrai que moi aussi, parfois, les changements, les compos, ça pouvait. Mais. Vraiment.
Non, mais ça fait partie, je pense. Non,
moi, j'ai vu un Vitinha arriver à court de forme. Le gars, il coûte 30 millions. Il peut pas être titulaire tout de suite. Il a été à peine titulaire sur la toute fin de saison. Sanchez devait pas jouer neuf. Il s'est démerdé. Il a quand même été le meilleur du club cette année. Under part pas pour être titulaire, devient titulaire. Bon, c'est pas un joueur top niveau. Il a donné le max. Moi, j'ai quand même l'impression que la plupart des joueurs ont donné leur maximum. Payet a jamais mérité d'être titulaire. Là, d'ailleurs, dans le match contre Annecy, il est titulaire. Qu'est-ce qu'il fait? Rien.
Non, mais le cas Unai est intéressant aussi. Même le cas Payet à la fin, la gestion de cette dernière semaine, tout ça.
Non, la gestion de Payet, c'est de sa faute. C'est la faute, elle est à Payet. C'est lui qui va mettre une claque dans un match. C'est lui qui se met dehors tout seul.
Je parle pas de ça. Unai s'est blessé, je comprends pas de quoi vous parlez en fait. Non, Payet, l'histoire de Lille où il n'est pas emmené parce que dans la semaine, il n'a pas eu le comportement espéré par Tudor. Tavares. Ce que je veux te dire, c'est que globalement,
mais il n'a pas eu le comportement qu'il fallait à Lens.
Ouais. Non, mais c'est privé aussi. Unai, c'était vrai. Avant qu'il se blesse, il ne le faisait pas jouer. Il a eu une volonté des certitudes avec ses joueurs titulaires, on va dire. Avec son
mais c'est la bonne période de l'OM. Effectif. L'OM cartonnait à ce moment-là.
Ouais, mais n'empêche que quand on disait
l'OM,
ça,
l'OM était bon à ce moment-là.
J'ai dit ça un soir.
C'est même l'OM à un moment. On s'est demandé s'ils n'allaient pas jouer le titre début février.
Oui, mais c'est pas le cas à la fin.
Mais début février, Unai il joue pas, mais après il se blesse à ce moment-là.
Daniel, moi c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi. Je suis assez d'accord avec Romain. À quel point. Je sais pas si tu es pied amoureux avec le PSG, pourquoi, à quel point tu es effectivement aussi laudateur à 400%
sur le coach. Mais pas du tout. Ce qui m'énerve, c'est
moi, je t'explique juste les limites d'un système.
Mais moi, je t'ai même dit il y a deux secondes que s'il s'en va, j'en fais pas un drame. Je t'ai même dit il y a 10 secondes qu'un mec comme Fonseca, s'il venait à l'OM, un type, ce genre d'entraîneur, je préférerais ne m'aimer pas dans le camp des défenseurs de Tudor. Je me mets dans le camp de ceux qui ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Ceux qui le taillent après une telle saison, ça n'a pas de sens. Non, objectivement, mais... par rapport à ce qui s'est passé dans notre Ligue 1, au niveau de notre Ligue 1, à la façon dont il a commencé l'année, au comportement de certains joueurs, aux caractéristiques des joueurs qu'il avait, je ne comprends pas. D'accord. Mais je lui reconnais les mêmes limites que tu as évoquées tout à l'heure. Et je te répète, encore une fois, même si les gens ne veulent pas l'entendre, s'il s'en va, je n'en fais pas un drame. Non. J'ai parlé peut-être de sa non-adaptation au climat marseillais. Putain, je ne vais pas parler chinois.
Punaise,
la vie, c'est pas binaire, bordel. C'est pas t'es pour ou t'es contre.
Non, Daniel,
Flo, t'es assez intelligent pour pas être binaire.
Il faut que t'écoutes aussi dans ce cas-là.
Non, je peux pas t'écouter alors que tu viens de me dire il y a deux secondes, je sais pas parce que t'es supporter du Parisien, tu vas me chercher un truc alambiqué. T'es un Parisien déçu, donc t'es dans le camp des défenseurs de Tudor alors que je viens de te dire
non,
le contraire.
Non, mais je pense.
Fais pas de faux procès.
Il n'y a pas d'histoire.
On fait un procès, c'est aligné.
Mais blague à part, il faut que t'écoutes tout le monde, Florent, comme les auditeurs. Tu les écoutes même s'ils sont pas d'accord avec toi, c'est normal.
Mais là, il s'agit pas c'est de pas d'accord. Il dit un truc qui n'est pas vrai me concernant.
Non, mais moi, c'est mon analyse psychologique, elle est peut-être pas bonne. Je pense effectivement, ça c'est un avis que j'ai personnellement, donc tu me permettras de te le donner. Effectivement, je pense qu'il y a une part, que tu le veuilles ou non, mais c'est assez en dehors de ce débat.
Hein.
Non, mais peut-être que non.
Mais
c'est mon analyse.
Mais
non,
ans,
pas du tout. C'est
mais
pas
non,
du
mais
tout.
Tu m'insultes mais en disant ça, Flo. Si, tu m'insultes.
Mais non.
Non, je te promets, je le prends très mal.
Mais peut-être, mais c'est.
Bah, putain, j'ai 53 ans, venez pas me casser les couilles. Vraiment, je te prends mal.
Déjà, non, je te prends mal.
Non, je te prends mal. Non, moi, j'en ai rien à foutre, je te prends mal. Voilà. T'as compris ou pas?
Redescends.
Non, je redescends pas. Non, je redescends pas. On me fait pas un procès comme si je suis en 30 ans. Mais ça me saoule. J'ai pas attendu d'avoir cet âge-là pour être traité de petit supporter de merde. Voilà, ça suffit. Voilà.
Je crois pas que Florent dit ça.
Non, ça suffit. Si, indirectement, c'est ça.
Non.
Ça me fatigue. Je suis pas sur Twitter là. Je suis avec des adultes et des gens intelligents.
Oui, mais sur Twitter, on laisse parler aussi. Donc, il faut que tu laisses parler.
Bah, on devrait pas.
On se répond.
Non, c'est fatigant, oui. Ça.
Bon, je réponds sur Twitter. Je ne bloque personne.
Bon, allez, conclue, Flo, et après,
juste dire que ce que les gens peut-être comprennent pas, Daniel, parce que là, c'est l'analyse de ce que tu dis, c'est que à quel point tu n'as absolument aucune indulgence, à juste titre, avec Rome Galtier, on va prendre l'exemple du PSG, et tu as de l'indulgence, parfois, pour Tudor, y compris sur ces limites que tu as évoquées.
Mais j'en ai plein d'indulgence. Je t'ai expliqué pourquoi.
Non,
les dix dernières saisons de l'OM, le contexte,
oui, c'est ça, ce que je
les joueurs qu'il a. Évidemment que je suis indulgent. Et dans le même temps, je te dis, honnêtement, s'il s'en va, vu ce qu'il propose, je pense qu'on peut même trouver mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? J'essaye de mettre un peu de mesure, de pas être dans le camp de ceux qui disent il dégage, il est mauvais ou il est pas mauvais. Il y a un contexte général et on vient me dire en fait tu défends Tudor parce que t'es déçu du PSG, donc tu veux dire du bien de l'OM.
Global, ça.
Mais ça veut rien dire ça.
Non,
mais ça veut rien dire.
Non, ça, c'est une analyse.
Comment veux-tu que je sois indulgent avec Galtier? Il y a un motif d'indulgence avec Galtier.
Bon,
toi-même tu l'es pas. Donc
dans un instant, on parle du maintien.
Mais là, je suis pas d'accord avec toi, vraiment.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h58, Louis de Florent Gautreau, Daniel Riolo, Jingle Gautreau a parlé du maintien, parce que Florent va en parler ce soir, la lutte à distance entre Nantes et Auxerre.
Oui. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade Malherbe de Caen. Un but partout à 3 minutes de la mi-temps. Super pronostic de Xavier Gravelin.
Et donc, pour un but de Mazur.
Mec, quand t'es dans un stade où il y a 80 000 personnes, ça donne des ailes.
C'est pas Bruno Mazur.
Non, c'était pas Bruno Mazur, que j'ai connu à France Télévisions d'ailleurs.
Bon alors, toi tu mises sur Nantes.
Ouais, je vais
contre toute attente.
Ouais, c'est une leçon de maintien que je vais essayer de donner ce soir.
Très bien, nous t'écoutons.
Pourquoi Nantes peut y croire? On rappelle le contexte, 2 points de retard, 35 points pour Auxerre, 33 pour Nantes. Différence de but favorable à Nantes, c'est un des arguments.
Nantes-Angers, Auxerre-Lens, dernière journée.
Voilà, Nantes-Angers, Auxerre-Lens, exactement. Alors, plusieurs raisons. Un, le calendrier, tu l'as dit, Nantes-Angers, Auxerre-Lens. Ah oui, on va dire Angers, c'est pas si mal à la fin. Ok, Nantes reçoit Angers et Auxerre reçoit Lens. Auxerre reçoit donc la meilleure équipe de France en termes de jeu, globalement. L'une des deux avec l'OM, pour faire plaisir à Daniel. Non, je déconne. Et donc, je note en aparté d'ailleurs l'intelligence de Pierre Aristouy, qui dès la fin du match à Lille a mis une pression certaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, au Lensois. En gros, pour leur dire de ne pas lâcher le match, mais il l'a fait assez intelligemment. Il a dit, écoutez, Lens est une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe de notre championnat. Je vois pas comment Lens peut perdre à Auxerre. Bon, il a fait son job.
On va même l'écouter. Allez, il est vrai que c'était plutôt bien pensé.
Ah oui, c'était plutôt malin.
Les regrets, on aura le temps de les avoir. Pour l'instant, c'est la déception sur ce match. On est encore en vie, effectivement. Maintenant, il reste un match. On ne maîtrise pas tout. Vous le savez aussi bien que moi. Je ne doute pas un instant que nous ferons ce qu'il faut pour battre Angers. Et je doute encore moins que cette très belle équipe de Lens qui nous a enthousiasmés depuis le début de l'année fera honneur à son rang.
Voilà, moi je trouve que c'est très intelligent, c'est très juste. Donc le calendrier pour moi est favorable à Nantes, qui reçoit Angers, qui peut gagner et qui peut espérer à minima un nul d'Auxerre contre Lens. J'ai vu aussi une autre équipe que contre Montpellier le match d'avant. Il y avait 5 changements, il y avait une cohérence sur les duels, sur la solidité, sur les deuxièmes ballons, ils ont été efficaces. Chirivella, qui a fait l'effort de revenir, change beaucoup de choses dans cette équipe. Donc c'est peut-être très tardif, mais comme il ne leur faut plus qu'une victoire, c'est un autre argument. Il y a Ganago qui a failli d'ailleurs mettre le deuxième but à la 44e. Et puis voilà, je vois la possibilité d'une idylle avec la chance, puisque en 2005, ils se sont sauvés à la dernière journée. Ils se sont sauvés au barrage en 2021 contre Toulouse. Et voilà, je pense que ce retournement de situation de la dernière journée peut exister, d'autant que Lens, on dit la fête et tout. Tu sais, ces semaines d'euphorie post-victoire, parce qu'ils n'ont pas de titre, pour les Lensois, avec cet effectif important quand même, avec des joueurs qui ont peut-être un peu moins joué, mais qui sont très bons. Je pense à Fulgini notamment et autres. Je pense que je ne vois pas Lens perdre à Auxerre. Et donc, je pense que Nantes a effectivement une chance certaine de se maintenir.
Bon, et la rivalité Nantes-Angers, tout ça, là, ça, tu te dis, on s'en fout.
C'est pas ça qui va empêcher Nantes de battre Angers.
Je pense que Nantes que j'ai vu à Lille, cette organisation-là, les changements qu'il avait fait, parce que c'est vrai que le match contre Montpellier m'aurait donné l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en gros, contre Montpellier, t'avais le Nantes qu'on connaissait, qui s'attendait pas à jouer le maintien, donc c'est un souci. Et versus une équipe d'Auxerre qui est remarquable et qui, elle, joue bien et joue et dans l'optique du maintien. Ce que j'ai vu à Lille, c'est plus une équipe qui veut jouer le maintien, qui va vraiment faire quelque chose, qui, franchement, vu les circonstances du match, c'est quand même un match galère pour Nantes, même si tout était justifié sur un plan arbitral. Donc voilà, je tente ce pari un peu fou vu l'écart de points ce soir. Je suis désolé pour Auxerre et pour mon ami Guimou sur Twitter, mais c'est le pari du soir.
Daniel, est-ce que tu es d'accord?
Le pari est paradoxalement pas complètement fou. Parce que Nantes a été beaucoup trop négligent dans l'attitude ces dernières semaines, avec pourtant des joueurs qui ne devraient pas être là où ils en sont, pour ne pas avoir un peu de dignité et se dire « c'est le dernier match, nous on va faire ce qu'il faut en bâton Angers et advienne que pourra de l'autre côté ». Le problème, c'est que de l'autre côté, pour Auxerre c'est un problème, pour Nantes un peu moins, Auxerre est dans l'obligation de battre Lens. C'est pas un match nul, c'est pas non, il faut gagner. Un match nul, je pense que j'aurais tenu un autre discours, mais battre Lens, écoute, aujourd'hui, je crois que c'est Nantes qui est dans une meilleure posture avant cette dernière journée. Je vois pas pourquoi Lens laisserait filer. C'est pas quelque chose qu'on constate un peu partout en Europe quand il y a une dernière journée avec une équipe de haut de tableau qui termine comme Lens a terminé. Il y a pas de raison que la dynamique de Lens qui perd pas un match depuis des semaines, viennent perdre le dernier match, qu'ils laissent filer comme ça, ça m'étonne. Je crois même que j'y croirais presque plus si c'était le PSG en face, qui là, pour le coup, a des joueurs qui n'ont rien à cirer de rien, que Lens, où il n'y a pas de raison d'aller perdre, en fait. Je ne vois pas pourquoi leur dynamique se casserait. Donc, ils peuvent, au minimum, les Lensois prendre le nul et empêcher Auxerre de se maintenir, parce que Nantes, de l'autre côté, je ne peux pas imaginer autre chose quand tu joues pour ta survie d'un club, des salariés du club, des joueurs qui vont rester parce qu'ils vont pas tous partir. Honnêtement, je peux pas imaginer une seule minute. S'ils battent pas Angers, les gars, allez tous vous jeter
dans l'herbe.
Non, voilà. Exactement.
Je pense que les mecs de Dortmund, il y a une semaine, je leur disais ça contre Mayence, on disait pareil.
Mais tu as absolument raison.
Donc, faut être méfiant.
C'est absolument impardonnable. Non, mais je te dis pas que c'est pas possible. Mmh. Mais je te dis exactement comme je pense que c'est impardonnable pour Dortmund. Ça serait également impardonnable pour Nantes de pas faire le taf, parce que là on demande pas plus que ça, quoi.
Et je note d'ailleurs à l'étranger ou ailleurs, comme a dit Daniel, que ça joue en Ligue 2. Ouais. Tu sais, les matchs où avec les équipes pas concernées. J'ai vu Bastia contre Le Havre. J'ai vu Brest à Marseille qui était déjà sauvé. Donc les équipes jouent jusqu'au bout. Alors il y a parfois des considérations financières,
tu sais, au classement. Mayence
contre Dortmund. Les équipes jouent. Tant mieux d'ailleurs.
C'est un peu la fin. Soit justement la multiplication des maletas.
Demain à 20h.
On intéresse les équipes à jouer.
Demain, Génération After à 20h, 22h, l'After. On parlera demain soir de la course à l'Europe. On n'a pas eu le temps de le faire ce soir. Et puis demain soir, spécial traître dans l'After. Et on vous donne tous rendez-vous au 32-16. Et puis là, on vous laisse avec Jean-Christophe Drouet et le magnifique Practice. Si vous êtes golfeur, vous allez vous régaler. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.